Bonjour à tous, Maddy est avec vous sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Fenêtre sur cour. Une nouvelle voix avec nous aujourd'hui.
Geneviève, bonjour à tous.
Dominique va nous parler de la structure de l'émission, comment cette émission est arrivée à pouvoir être diffusée.
Alors, cette émission Fenêtre sur cour, c'est quelque chose qui a démarré en janvier 2014 en partenariat avec la Cité de la CAF. Donc, tous les mois, une équipe de bénévoles qui ne connaissaient rien au métier de la radio enregistre une émission. Nous devons être aujourd'hui à la 18e, voire peut-être la 19e, si je calcule bien. Donc, cette émission, elle est préparée par trois ateliers qui se déroulent le lundi matin et au cours desquels toute l'équipe choisit le thème de l'émission à enregistrer et puis les pauses musicales qui vont ponctuer cette émission, une voix qui est en rapport avec le thème choisi. Voilà, alors c'est un projet très intéressant parce qu'il a permis à un certain nombre de personnes de découvrir le métier de la radio, de s'y impliquer, de voir que ce métier-là, c'est pas seulement l'enregistrement d'une émission, mais également sa préparation, donc des contacts à prendre, etc. Et on est assez content de ce que, arrivé à ce mois de septembre 2015, eh bien, on puisse partir pour une nouvelle année et continuer une aventure qui est réussie. Alors, nous invitons tous nos auditeurs à venir rejoindre l'équipe chaque lundi matin pour découvrir les uns et les autres qui constituent cette belle équipe et puis voir comment une émission peut se préparer et vérifier que c'est pas quelque chose de forcément facile. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de discussions, de concertations. Il faut téléphoner, parfois il faut aller sur le terrain. Voilà, venez nombreux, vous serez accueillis à bras ouverts. Alors, quelques-uns des sujets, Maddy, vous allez m'aider peut-être, quelques-uns des sujets que nous avons traités au fil des émissions.
Oui, Dominique, je vais parler de ceux dont je me souviens le mieux. Nous avons eu une émission concernant l'impression sur étoffe.
Oui.
Nous avons eu une émission sur les vaches heureuses. Nous sommes allés interviewer l'éleveur dans sa ferme. Il nous a bien reçus. Nous avons passé une journée formidable au milieu des vaches. Ensuite, nous avons eu une émission sur le cirque avec la vie des circassiens.
On a eu une émission sur le bénévolat, je crois bien. Puis on est allé visiter une entreprise. Je crois que c'était
des entreprises innovantes. Oui, entre autres, une entreprise qui fabriquait des sièges pour les dentistes. Une jeune fille aussi qui fabriquait des bijoux, de très très jolis bijoux. Elle a une entreprise et maintenant elle est sur Paris. Elle diffuse ses bijoux fantasy.
Oui, c'est vrai.
Elle s'appelle Julie.
Et c'est ça peut-être qui est intéressant de souligner, c'est que la radio finalement nous fait pénétrer dans des univers que on connaît plutôt mal, il faut le dire, dans des univers qui nous sont proches. Et la radio nous permet de rencontrer toutes ces personnes qui sont engagées dans des activités passionnantes, tous ces bénévoles qui déploient leur énergie pour faire avancer les choses sur le territoire. Voilà, c'est une bien belle expérience et je pense que y participer, on n'est pas obligé de participer, de signer, on ne signe pas d'engagement, on vient là, on regarde, on écoute et puis en général, quand on vient, qu'on regarde, qu'on écoute, on a envie de rester un petit moment, un grand moment. Vraiment, je vous invite à venir nous rejoindre le lundi matin. En plus, ça démarre toujours par un café, plutôt pas mal. Un café, puis des échanges comme ça à bâton rompu, et ensuite on se met au travail. Voilà.
Oui, on peut ajouter aussi que c'est très diversifié. Donc, une idée en entraîne une autre. Parfois, quelqu'un avance une idée et aussitôt, ça fait germer une idée derrière, une deuxième idée, puis une troisième, et ainsi de suite. Et on s'enrichit. Finalement, on s'enrichit des autres par rapport aux autres.
Alors, Geneviève, précisément, c'est intéressant que vous soyez là aujourd'hui, puisque après cet appel qu'on vient de lancer, qu'est-ce que vous faites là ?
Eh bien, il y avait de la lumière, donc je suis rentrée.
Ah, c'est parfait.
Voilà. Eh bien, je suis là parce que je suis d'abord de tempérament très curieuse, donc je me dis que, Eh bien, ici, je peux découvrir plein de choses que je ne connais pas. Et c'est exactement ce que tu disais juste avant. Des portes vont s'ouvrir dans des domaines où ben, je n'aurais pas idée d'aller, je n'aurais pas idée de rencontrer des personnes. Et je trouve que c'est toujours riche de découvrir des nouvelles choses. Donc, je suis là pour ça.
Est-ce que je peux vous demander ce que ça représente, la radio, pour vous? Pas forcément en couleur FM, mais la radio en général.
C'est quelque chose que j'écoute chez moi. Mm-hmm. Mm-hmm. Maintenant... C'est vrai qu'il faut être intéressant pour accrocher, donc c'est sûrement le cas de Fenêtre sur cour.
Bien sûr.
Mais c'est un moyen que j'aime beaucoup parce qu'on n'a pas l'image qui nous pollue. Donc je suis beaucoup plus radio que télévision.
Voilà, la proximité de la radio.
Oui, puis la voix, c'est quelque chose qui est très joli, je trouve, à écouter. Ça donne vraiment déjà une idée de la personnalité. Donc j'aime beaucoup la radio. Moi, c'est vraiment un moyen que j'écoute et que maintenant que j'utilise.
Alors, Geneviève, qu'est-ce que vous aimez tout particulièrement à la radio? La musique? Telle ou telle thématique?
Ah, d'accord. Alors moi, j'aime la musique, pourquoi pas, mais c'est pas la première chose. Non, j'aime les rencontres vraies. Donc j'aime les choses, je suis plutôt dans l'humanité avec un grand H. Le côté artistique, aussi, ou parce qu'on n'est pas toujours au courant de tout ce qui se passe sur le territoire, je trouve ça intéressant, mais j'aime les rencontres humaines.
Alors, vous dites une rencontre vraie, c'est quoi une rencontre vraie?
Ah, c'est où on s'apporte les uns les autres, où il y a des choses qui se passent, c'est un peu ingérable, et ça j'aime bien.
Voilà, vous attendez une espèce de... Des surprises, finalement.
Oui, hein. Ouais, tout à fait.
Une rencontre et les surprises qu'elle va apporter.
Tout à fait.
Ouais.
Des échanges aussi.
Bien sûr, alors c'est la rencontre avec d'autres personnes, hein, ce que je dis, les échanges, tout ça c'est passionnant. Enfin, moi je commence là et je suis pleine d'entrain et très curieuse de découvrir tout ça. J'espère que cette saison sera super et quand je vois Maddy et puis Dominique, je me dis que cette équipe est vraiment très sympa et... Je pars avec eux.
Maddy, on ne peut qu'être d'accord, non?
Tout à fait, tout à fait. Et puis Geneviève, aujourd'hui, nous sommes en personnel restreint, si j'ose. Les autres ne sont pas encore rentrés de vacances, mais vous pouvez voir, Geneviève, qu'il y a vraiment une équipe sympa. Et puis aussi, un peu de tous les âges. On a plusieurs, une gamme d'âges. Et c'est très intéressant parce que moi, je suis pour le mélange des âges.
Tout
des
à fait.
Âges, mmh. Des ethnies, des... Voilà, le mélange des gens, ça apporte beaucoup.
Mmh, tout à fait.
Geneviève, est-ce qu'on peut vous demander, est-ce que vous avez déjà une petite idée ou une envie, pourquoi pas, d'un thème d'émission, d'une personnalité à rencontrer, d'une association auprès de qui on pourrait demander comment ils fonctionnent, ce qu'ils font exactement. Est-ce que vous avez quelque chose
Alors,
à la tête?
Si je prends mon expérience à moi, parce que je ne suis pas que ici, j'ai d'autres engagements dans d'autres associations. Je suis assez portée sur, pas toujours très drôle, mais bon, l'accompagnement de la fin de vie, l'accompagnement des malades, sur le commerce équitable, sur les plaidoyers pour changer un peu ce monde qui parfois est un petit peu difficile à vivre. Mais tout ça, bien sûr, d'un côté positif et pour voir le meilleur de la vie, hein, c'est pas pour non plus être triste, pas du tout. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi Faut rencontrer des belles personnes, comme je dis, c'est-à-dire, ouais, c'est ça. Mais je suis ouverte un peu à tout aussi, hein. Mais je suis un peu dans le domaine, plutôt dans ce domaine de l'humanité et de l'humanisme, comme je dis.
Vous avez dit
la psychologie aussi, j'aime beaucoup l'art thérapie.
J'ai l'impression qu'on va pas s'ennuyer.
Non.
vous avez dit
la musique. Je fais partie de l'orchestre de l'harmonie de Bourgoin-Jallieu.
Et ben voilà.
Voilà, donc la musique aussi. Voilà, il y a plein de choses. Mon Dieu,
ouais, vous avez dit quelque chose que j'ai noté. Vous avez parlé de changer le monde, changer la vie. Est-ce que vous pensez que la radio a ou pourrait avoir un rôle, aussi modeste soit-il, dans cette préoccupation?
Ah oui, beaucoup, beaucoup, parce que je pense, pour moi, c'est un moyen de m'instruire, la radio. J'ai pas toujours le temps de lire, pour moi, quand j'écoute une radio et que j'apprends des choses, j'estime que j'ai été nourrie, et à ce moment, c'était une bonne émission. Bien sûr, il y a plein de choses qui peuvent passer par la radio. Ça me paraît très, très important, un moyen très ouvert, très riche, très varié, parce que je peux allumer la radio. Tiens, je croyais avoir une émission sur un sujet, puis c'est un autre. Tiens, moi, je ne m'y étais pas vraiment occupée. Enfin, j'ai des réponses, ça me donne envie de lire des choses. Enfin, non, c'est très, très chouette, la radio. Moi, j'aime beaucoup.
Bon, vous n'allez pas partir?
Non, je ne crois pas.
Bon.
Mince, je me suis fait avoir.
Merci, en tout cas.
Bien, je vous propose une pause musicale avec Jeanne Manson, La Chapelle de Harlem. Ben oui, bien sûr, c'est La Chapelle de Harlem avec Jeanne Manson. Et ensuite, nous parlerons du sujet de l'émission sur une chapelle.
Dans une chapelle de Harlem, Jimmy est blanc, Jesse est noir. Ils se sont dit oui, plein d'espoir. Ils sont venus se marier. Miracle de l'année, la chorale leur a chanté. Alléluia, 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 et qu'ils s'aiment toujours. Car l'amour n'a pas de couleur et jamais de frontières dans les cœurs. Alléluia.
Allons maintenant à Nivola-Vermel, où nous allons rencontrer Michel Rival et Madame Badin, qui vont nous parler de la chapelle de Nivola.
Je me permets juste une petite précision, je crois qu'on va nous dire, on nous a dit qu'il fallait dire église.
Eh bien bonjour. Nous sommes ici dans l'église ou la chapelle de Vermel, je ne sais pas encore exactement comment on doit dire, avec Madame Suzanne Badin, la présidente de l'association, Madame Isabelle Groussol et Monsieur le maire de Nivola, Michel Rival. Donc bonjour à tous les trois. D'abord, est-ce qu'on doit dire chapelle ou église ?
Après les recherches historiques, nous disons église de Vermel maintenant. L'historienne Elisabeth Badin-Rabillou a fait des recherches historiques très, très profondes. Et pour les journées du patrimoine, elle nous fera des visites commentées sur cette église du 11e.
Tout le monde a l'habitude de dire la chapelle de Vermel. On dit la chapelle de Vermel, mais en fait, c'est une église. Et c'était l'église paroissiale des Éparts, de la grande paroisse des Éparts, qui allait de Badinières jusqu'à Boussieu-Ruffieux, puisqu'elle dépendait du mandement de Maubec, avec la marquise d'Ornano, etc. Et cette église, donc, était l'église paroissiale des Éparts. Il y avait deux églises paroissiales aux Éparts. Celle-ci, donc, qui a, on va dire, qui arrosait le nord de la paroisse, et l'église de Badinières, dont on a encore un élément de, dans le cimetière de Badinières, puisqu'il en reste encore un morceau à l'intérieur du cimetière, puisque à cette époque, donc 10e, 11e, etc., les églises, le champ paroissial, le cimetière était autour de l'église. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a gardé ce site ici. Le cimetière entoure l'église. Il y a eu un inventaire du patrimoine réalisé par le département, par l'équipe du patrimoine en Isère, et qui a dit du coup que cette église était un des édifices les plus anciens du Nord-Isère. Alors il y a des édifices beaucoup plus anciens dans le reste, le Viennois, etc. Mais sur le Nord-Isère, c'est un des édifices les plus anciens.
Quel est le lieu exact où elle se trouve ?
Alors justement, Suzanne faisait référence au travail qui a été fait par Elisabeth Badin-Rabiou. Quand on arrive à Vermelles, on voit cette espèce de tumulus et on se dit, il y a quelque chose quand même. Hein. Et donc, on pensait pendant quelque temps que c'était un site un petit peu gallo-romain, puisque la route gallo-romaine qui va de Rufieux, parce que Rufieux était un très grand carrefour de la route qui allait à Ostes, etc. Il y avait un embranchement qui partait à la côte Saint-André. Et à l'époque, on ne circulait pas dans les vallées, parce que les vallées, elles inondaient. Donc, la route romaine, et on en a des petits bouts là à côté, passait ici. Et souvent, le long des voies romaines, il y avait une espèce de tumulus avec une chapelle au dieu Mercure, parce que c'était le dieu du voyage. Et donc, on voit bien qu'on est sur un site qui est retaillé. Donc, alors peut-être que c'est un site, toutes les églises ont réutilisé des sites anciens, des sites celtes, des sites gallo-romains, etc. Donc, et Elisabeth Badin a confirmé en disant qu'on était ici sur une motte castrale, puisqu'il y avait pas mal de mottes castrales dans le secteur.
Au cours des siècles, a-t-elle subi des modifications importantes ?
Oui, cette église, tout d'abord, était très, très petite, puisqu'elle faisait 24 mètres carrés. Et la grande nef a été rajoutée au 19e. Les chapelles latérales ont été rajoutées aussi.
Alors évidemment, à la radio, c'est difficile à montrer, mais derrière l'autel, vous avez la partie avec la nef qui est romane, et avec des corbeaux qui sont vraiment le signe des édifices du 10e, 11e siècle.
C'est quoi un corbeau ?
Alors, le corbeau, c'est cette espèce de moulure en pierre qui entoure la nef, on va dire, cette petite nef. Donc il est clair que l'église était beaucoup moins grande, hein, puisque on a démarré sur cette espèce d'emplacement, là, 24 mètres carrés, 6 sur 4, c'est clair. Et donc l'entrée n'était pas ici, puisque l'entrée, la nef n'existait pas. D'ailleurs, quand on monte dans les combles, on voit des ouvertures anciennes qui ont été murées, qui ont été restructurées, etc. Et l'entrée était vraisemblablement au sud, alors que maintenant, l'entrée est à l'ouest, puisque les églises anciennes sont est-ouest.
Tout à l'heure, Monsieur Rival, vous nous disiez que le petit édifice là était probablement dédié à Mercure. Et alors, cette église, à qui est-elle dédiée actuellement ? À quel saint ?
Alors, elle a été dédiée à plusieurs saints. Donc, en premier, Saint Blaise, si je me souviens bien, donc, puisque vous avez des bannières de procession dont une est dédiée à Saint-Blaise, parce que c'était une église campagnarde, donc Saint-Blaise, c'était le patron des agriculteurs, voilà, on allait faire des processions à la Saint-Blaise, etc.
Pour faire pleuvoir.
Voilà, pour faire pleuvoir, exactement. Et en plus, Nivola avait d'autres chapelles à Rufieux, deux autres chapelles qui était un peu sur l'ancienne voie romaine. Et alors maintenant, elle n'est plus dédiée à Saint-Blaise. Ben, Suzanne va vous dire à qui elle est dédiée. Elle est dédiée à Notre-Dame, non?
Alors, il semblerait que ce soit la Vierge Marie. Pourquoi pas? D'ailleurs, il y a là, dans un coin, une très jolie Vierge dont nous parlerons probablement tout à l'heure.
Et alors, cette Vierge, c'est une Vierge de procession, puisque vous voyez, elle est sur un châssis. Donc, lors de la messe du 15 août, où c'est le seul moment où il y a réellement un office, voilà. Les fidèles sortent en procession et vont jusqu'au promontoire pour bénir la commune de Nivola-Vermel.
Nous parlions tout à l'heure de cette Vierge et de sa sortie le 15 août. Alors, est-ce qu'il y a d'autres manifestations, religieuses ou non, autour de cette église?
Des manifestations culturelles. Nous faisons des expositions de peinture, des expositions, la grande exposition d'été chaque année. Nous participons aux journées européennes du patrimoine, des concerts, des conférences, voilà, pour les années, en sachant que l'église de Vermel ouvre en avril et ferme en octobre.
Quelle est son importance pour les gens du village ?
Alors, cette église de Vermel est très importante pour les gens du village, puisque lorsque les personnes du village meurent, ce sont les seules personnes qui ont le droit d'être enterrées autour de cette église. Les autres personnes extérieures à Vermel ne sont pas enterrées. Donc, c'est très important. Et les habitants de Vermel aiment entendre le timbre argentin de la cloche de Vermel.
Y a-t-il encore des cérémonies, des baptêmes, des mariages, des enterrements?
Oui, de temps en temps. Les familles aiment baptiser leurs enfants. Il y a quelques années, il y a des personnes qui habitaient Vermel qui ont baptisé leurs enfants. Il y a eu un mariage il y a quelques années en arrière. Des enterrements, pour le moment, il y en a très peu. Les mariages aussi se font rares. Il y a surtout des baptêmes dans cette église. Lorsque les familles ont un prêtre dans leur famille, et les personnes de Vermel aiment baptiser leurs enfants ici.
A-t-elle un style particulier ?
Le style, on peut dire que c'est une église de style campagnard, mais avec plein de styles différents. Donc on a dit, derrière l'autel, donc cette voûte plein cintre qui est réellement du premier roman, du roman le plus ancien, et lorsque les chapelles latérales ont été rajoutées, donc la chapelle sud est la plus ancienne, elle a été rajoutée au 15e siècle à peu près, donc on a réellement le style du 15e siècle avec des croisées d'ogives, et le reste de l'église a été retravaillé dans le style avec des croisées d'ogives, on est ici dans le chœur, et on a des croisées d'ogives qui ne sont pas en pierre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais la voûte a été retravaillée vraisemblablement au XVIIIe siècle, puisqu'on voit que c'est des techniques de cette époque-là. Les croisées d'ogives sont en bois et la voûte est en plâtre. Donc, ce qui veut dire que, elle a été très, très retravaillée. Donc, on n'a pas de style. C'est pour ça que l'église elle-même n'est pas classée, puisqu'il y a plein de styles différents. Par contre, la cloche est classée. Elle est classée parce qu'elle date de 1666. Et donc, c'est le seul élément qui est classé au monument historique. L'ensemble de l'église et l'entourage est classé au patrimoine en Isère, donc il a le label du patrimoine en Isère, mais on n'est pas classé au monument historique.
Moi, je suis surprise par les vitraux. On ne voit pas de saints, de sainte Vierge.
Tous ces vitraux ont été élaborés par des donateurs, puisqu'il y a le nom de chaque donateur sur chaque vitrail. Et c'est vrai que nous n'avons pas de scène religieuse sur ces vitraux.
Ils sont anciens ?
Oui, c'est des vitraux du 19e siècle. D'ailleurs, on retrouve des vieilles familles de Nivola, la famille Payet, les industriels qui, à l'époque, je ne sais pas si c'est pour s'acheter une place au paradis, ils offraient un vitrail, voilà.
Se faire pardonner des bêtises.
Moi, on m'a raconté hier, une habitante de Nivola, ex-habitante de Nivola, qu'il y avait une épicière qui faisait des toutes petites, dans du papier journal, des toutes petites surprises qu'elle vendait aux enfants, et que quand elle avait sa boîte qui était pleine de sous, eh bien c'était pour l'église de Vermels, elle en faisait le don. C'est Marie-Noël Fréchet qui m'a dit ça hier.
Voilà.
Y a-t-il des objets de culte?
Oui. Nous avons des objets de culte, bien entendu, qui ne sont pas à la vue du public, que nous tenons un petit peu classés dans le meuble de la sacristie, et notamment tous les vêtements religieux qui sont bien rangés dans du papier de soie.
En objet intéressant, il faut signaler les deux autels en bois peint. Vous savez que dans les années 50, dans les églises, il y a eu la frénésie, comme dans les cuisines, la frénésie du formica. Et alors, tout le bois peint est passé au feu. Et comme à Vermelles, donc, ma foi, il y avait peu de manifestations, peu de cérémonies. Donc, du coup, les autels sont restés et on les a restaurés. Donc, et il y a, paraît-il, d'après la Fondation du patrimoine en Isère, donc il y a 4 autels en bois peint dans le département de l'Isère et il y en a 2 dans l'église de Vermelles.
Je vois des bannières aussi qui sont accrochées et puis la petite Vierge là qui est dans sa petite loge. Qu'est-ce que j'ai vu encore j'ai vu plein de choses, moi, il me semble, dont on n'a pas parlé. Des chandeliers, j'avais vu des chandeliers aussi. Voilà, alors tout ça, d'où ça sort?
Les bannières, celle de Saint-Blaise, c'est l'original de la bannière de Saint-Blaise. Par contre, la bannière de Sainte-Philomène, la soie brochée autour de la photo de Sainte-Philomène a été restaurée il y a plusieurs années, puisque la soie était très usée. En sachant qu'autrefois, ces bannières étaient portées lors des processions. Ce que nous ne faisons plus maintenant, parce que cela les abîmerait. Et nous avons retrouvé dans la crédence de la sacristie 2 petites bannières qui sont exposées dans cette église, qui était au fond de la crédence, pliées dans du journal et, comment dire, qui ont reçu beaucoup de pluie, puisqu'autrefois il pleuvait dans cette crédence, et qui se sont très très bien conservées.
Par rapport à ce qui était demandé là sur d'où viennent tous ces chandeliers, etc. Alors, certains étaient dans l'église, mais d'autres viennent de l'église de Nivola. Parce que Nivola a 2 églises, donc une qui a été en activité et qui est toujours en activité, et celle-ci qui est un peu, on va dire, en activité réduite. Donc, ce qui s'est passé dans les autres églises où, quand on a dit « Oh, ça c'est des vieilleries, on s'en débarrasse », là, on s'en est pas vraiment débarrassé, donc on les a accumulés à Vermelles. On a de la chance, parce que du coup, ils ne sont pas partis à la benne. Donc, on a des choses qu'on considérait à une époque comme des vieilleries et qui sont des choses très intéressantes.
Il y a même un lustre, c'est pas si courant que ça?
Non, alors c'est un lustre qui a été rapporté, nous ne savons pas trop l'historique de ce lustre. Mais c'est un lustre qui ressemble plus à un lustre de château qu'à une église, qu'à un lustre d'une église.
Je suis devant l'hôtel et je vois au-dessus de la porte une petite galerie. Alors ça servait à quoi cette petite galerie autrefois et ça sert encore à quelque chose maintenant?
De toute façon, il fallait agrandir l'église hein, parce que vous voyez, la taille elle est pas très grande, donc la nef a été rajoutée. Et dans la nef, il y avait traditionnellement une galerie. Alors on nous dit que c'était les hommes plutôt, parce que d'abord les dames, on ne pouvait pas y monter, hein, parce que l'escalier est très raide, et quand on a des robes qui traînent par terre, on risquait de se mettre la figure par terre, donc en descendant de l'escalier qui est très raide. Donc c'est surtout les hommes qui montaient là-haut, mais actuellement, quand il y a des concerts, il y a plein de gens qui montent, parce qu'on a une vue sur l'ensemble de ce qui se passe, et on a une très bonne acoustique.
Donc cette église est encore ouverte au public pour toutes sortes de manifestations. Et vous êtes donc, madame la présidente, des Saisons de Vermelles. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, les Saisons de Vermelles ?
Alors, les Saisons de Vermelles font découvrir au public, tout d'abord, cette église, qui n'est pas toujours connue, et surtout des manifestations culturelles, ce qui permet au public de venir admirer un petit peu toutes les expositions. Nous commençons très souvent par une exposition de peinture, ensuite une grande exposition d'été qui reste ouverte largement un mois, et ensuite nous avons aussi la messe du 15 août et les Journées européennes du patrimoine qui sont très importantes pour l'association.
Alors cette association, elle a vu le jour quand ?
Alors tout d'abord, en 1952, il y avait une association qui s'appelait la conservation de cette église de Vermelles. Et c'est en 1972 que le nom est arrivé de l'association pour la protection de l'église de Vermelles. Et depuis, nous développons les manifestations culturelles dans cette église.
Pour finir les saisons de Vermelles, nous avons convié un grand monsieur, ex-pensionnaire de la Comédie Française, Michel Leroyer, qui va venir dans ce lieu magnifique donc, pour réciter les poèmes « Je vous salue Marie » écrits par Charles André, poète-écrivain, et qui sera accompagné au piano par Brigitte Gonin-Chanu, qui est une habituée des lieux, hein, qui a fait de nombreux concerts ici. Voilà, c'est un immense honneur pour nous de recevoir ce grand monsieur.
Et si on veut venir alors, est-ce qu'il faut réserver? Parce que ce n'est pas très grand tout de même. Donc, comment est-ce que cela se passe?
Non, nous ne faisons pas de réservation, mais nous conseillons au public d'arriver une demi-heure avant. Pour les Journées européennes du patrimoine, nous ne faisons pas de réservation. Mais rassurez-vous, cette église vous paraît très petite, mais nous arrivons à mettre plus de 100 personnes. Donc, je pense que tout ira bien pour les Journées européennes du patrimoine.
Pour continuer sur l'association, l'actualité, on peut la trouver, on peut s'informer sur le site de la mairie.
Oui, alors l'église de Vermelles a un site à la mairie de Nivola-Vermelles et l'association a un site également. Nous faisons aussi des dépliants chaque année pour toutes les manifestations que nous distribuons un petit peu dans les mairies, à la mairie Nivola-Vermelles bien entendu, mais les mairies alentours. Et nous le diffusons très largement lors des visiteurs des manifestations.
Est-ce qu'on peut vous demander combien d'adhérents à l'association ?
Alors, une centaine d'adhérents actuellement.
Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles ?
Oui, nous avons une quinzaine de bénévoles, c'est-à-dire le conseil d'administration qui comprend 15 personnes.
Est-ce qu'il y a des archives concernant cette église, une publication, enfin...
Alors, on peut trouver des choses sur le site de la commune de Nivola-Vermelles, puisqu'il y a une rubrique histoire, patrimoine, etc. Donc, je ne vais pas vous la raconter parce qu'il y a toute l'histoire de la cloche lorsqu'elle a été fendue en 1666. Alors, comment la connaît-on ? C'est parce qu'il y a eu un litige et les paroissiens de Ruy sont allés au tribunal contre le maître fondeur parce qu'on l'accusait d'avoir détourné de l'airain de Ruy pour venir faire la cloche de Vermelles, une partie de la cloche de Vermelles. Donc, s'il n'y avait pas eu une action au tribunal, on ne saurait pas quand la cloche a été fendue. Enfin, si, on sait parce que c'est écrit dessus, mais on ne saurait pas tout ce qui s'est passé autour et comment elle s'est faite. Donc, c'est le même maître fondeur qui a fondu les cloches de Ruy. Et après, la cloche de Vermelles. Donc ça, vous allez le trouver sur le site internet. Vous allez aussi trouver des documents qui sont... Alors, on espère qu'on va pouvoir les recadrer d'une façon beaucoup plus précise avec le travail que fait Elisabeth Badin-Rabillou pour le moment, parce que, on a aussi le travail historique qui avait été fait par l'abbé Dugon, qui est le fondateur de l'association de l'église de Vermelles. mais il y a quand même pas mal d'approximations. Donc, les outils dont dispose actuellement Elisabeth Badin sont sans commune mesure parce qu'elle a accès à des documents, en particulier des documents qui sont maintenant aux archives départementales, mais qui sont des documents de la grande paroisse de Vienne, puisque Vermel dépendait de la paroisse de Vienne.
Ces tombes-là qui sont juste devant, on n'a jamais envisagé de les déplacer.
Non, non, non. Cela fait partie du patrimoine, donc nous ne les touchons pas. C'est vrai qu'il y a des tombes qui sont détériorées, mais ce sont des anciennes tombes du 19e. 19e.
Par contre, n'ont le droit d'être enterrés que ceux qui habitent Vermel et qui avaient une concession. Voilà, parce qu'autrement, c'est trop compliqué de... Tout le monde voudrait être enterré ici. On est moins morts sûrement dans un petit cimetière comme ça. Ça, c'est la tombe de la famille Rivoire de la Bâtie, qui était le propriétaire du château ici. Voilà.
D'accord.
Et qui est mort désargenté. Donc, il a vendu le château à son fermier. Et lui, il a acheté la cure de Vermel, parce que c'est la cure qui est là à côté. Et la cure a exactement la même date que la cloche, 1666.
Et du coup, une fois qu'on est dehors, on voit mieux l'ancienne entrée de l'église.
Tout à fait. On est vraiment dans la partie la plus ancienne. Et en particulier, on voit les contreforts du clocher. Et on comprend que c'est pu être une motte castrale, parce que les mottes castrales, c'était des sites retaillés pour être sur un endroit où on puisse se protéger, qui ont abrité dans un premier temps un château de terre, un château de bois et après de la pierre. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a les contreforts de la motte castrale, hein, du château d'origine.
En quoi est fait le toit ?
Alors, c'est un toit en tuile écaille. Donc, le toit est très ancien, hein. Il a été refait parce qu'il y a eu une période lorsque Suzanne Badin a repris la présidence de l'Association pour la protection de l'église de Vermel. Le nom était bien nommé parce que l'église menaçait ruine. Hein. La poutre principale allait s'effondrer. Et donc, la commune a fait le premier travail, c'est-à-dire de mettre hors d'eau, donc de refaire le toit, parce que c'est le principal. Et donc le toit, et puis après donc l'association a pris en charge les restaurations du mobilier, donc avec l'aide de la commune, avec l'aide du conseil général. Et lorsque le vice-président à la culture du conseil général est venu, il a dit c'est formidable, on peut la classer parce qu'il n'y a plus rien à faire.
La pierre, c'est quoi ?
C'est les pierres qu'on trouve partout par là, qu'ont amené les glaciers. Alors le problème, vous voyez que la pierre, on voit bien ces pierres d'angle. Les pierres d'angle, c'est de la molasse, là, hein, donc oui, c'est clair. Et l'encadrement aussi est en molasse. Par contre, là, donc, dans les années précédentes, alors je ne sais pas quand, le rejointement des pierres avait été fait au ciment, donc ça nous a créé de gros dégâts à l'intérieur, puisque l'humidité ne pouvait pas ressortir à l'extérieur, donc elle sortait à l'intérieur, donc il a fallu qu'on repique tout et qu'on refasse les joints à la chaux pour que ça respire. Et depuis, on a pu refaire l'intérieur à la chaux, et vous voyez, dans la sacristie, ça n'a pas bougé. Hein, donc, c'est des problèmes par rapport aux bâtiments anciens. Avec des techniques anciennes, il ne faut pas traiter les bâtiments anciens avec des techniques nouvelles.
Eh bien, écoutez, nous vous remercions pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Et puis... rendez-vous eh bien, dans l'émission Fenêtre sur cour pour voir le résultat de toutes nos questions et vos réponses.
Oui, merci à Madame Badin, merci à Michel Rival et puis merci également à Isabelle Groussol qui fait partie de cette association pour la protection de l'église de Vermel. Donc on rappelle que l'association ouvre les portes de l'église à l'occasion des journées du patrimoine, le 19 et le 20 septembre. Des visites seront commentées par l'historienne Elisabeth Badin-Rabillou. Et puis on note un événement important, le dimanche 20 septembre à 17h, le comédien Michel Leroyer, ancien pensionnaire de la Comédie-Française, accompagné par Brigitte Gonin-Chanu au piano, qui vient réciter des poèmes. Je vous salue Marie, écrit par Charles André, qui est un écrivain poète. Alors, Maddy, vous allez nous proposer une pause musicale ?
Oui, la deuxième pause musicale de notre émission, avec Tina Reyna, Les Trois Cloches.
Et puis restez bien avec nous, parce qu'après la pause musicale, eh bien, nous aurons l'agenda.
Voici la nuit étoilée, une nouvelle nous est donnée. Jean-François Nicole, il se nomme. Les joues plus tendres et rosées, à l'église, vos petits hommes. Demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, un sonne. Sa voix décore en écho. Et tout le monde qui se tourne. C'est pour Jean-François Nico. C'est pour accueillir.
Alors, nous venons d'entendre Les Trois Cloches. On est en général plus habitué à écouter, à entendre la version chantée par Édith Piaf et les compagnons de la chanson, mais au vu de nos réactions à tous les trois dans le studio et une espèce d'envie de danser que qui était très perceptible, je pense qu'on peut dire que cette version est une excellente version. Alors maintenant, nous allons écouter une voix qui est en relation avec cette célébration des journées du patrimoine. C'est la voix de Jack Lang. Jack Lang qui a fait un certain nombre de choses qui durent toujours actuellement. C'est lui qui a lancé précisément les journées du patrimoine. C'est lui aussi qui a lancé les premières journées de la musique. C'est lui qui a introduit en France le prix unique du livre. Et Jack Lang nous parle, ça date d'il y a 3 mois, d'une éventuelle chaîne du patrimoine sur la télévision française.
Votre projet de créer une chaîne du patrimoine me paraît excellent. Et je vous félicite de vous battre avec autant de courage, d'enthousiasme et de détermination. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les télévisions, notamment publiques, n'accomplissent plus leur mission. Naguère, il y avait des émissions passionnantes sur la France... des monuments en péril, des monuments à la langue française, en passant par d'autres éléments, votre chaîne pourrait combler des lacunes ou combler des manques face à un service public qui n'accomplit pas sa mission. Voilà. Et si vous réussissez à créer une telle chaîne, on ne pourra que s'en réjouir et que vous soutenir et que vous écouter et que vous suivre. Donc bravo, bagarrez-vous. Et je serai très heureux d'être l'un de vos premiers téléspectateurs.
Couleur FM 97.1. Place à l'agenda, Geneviève.
Oui, tout à fait, Dominique. Alors, tout d'abord, le samedi 5 septembre, nous avons le forum des associations à Bourgoin-Jallieu, à la salle polyvalente de 9h à 18h. Toujours un moment très important, si vous voulez faire du bénévolat, n'hésitez pas à y aller, ça permet de rencontrer les responsables d'associations et des fois on est bien surpris, on rentre avec une idée et on ressort avec une autre. Le mercredi 9 septembre, à la Cité de la CAF à Bourgoin-Jallieu, il y a l'inscription pour les activités au centre social de 10h à 12h et de 16h à 18h. Il y aura aussi la réouverture de la ludothèque. Et toutes les activités, par contre, reprendront qu'à partir du 28 septembre.
Bien, toujours dans le cadre de l'exposition « Les artisans du luxe », il va y avoir une journée le 4 octobre de 14h30 à 17h30 avec des artisans qui vont venir parler de leur travail et sans doute faire aussi des démonstrations. J'imagine qu'on va pouvoir voir ça au musée à Bourgoin-Jallieu. Le musée Victor Charton à Bourgoin-Jallieu.
Et je rajoute encore une information. Nous avons donc pour les journées du patrimoine, dans le thème de notre émission d'aujourd'hui, l'ouverture du musée Hector Berlioz à la Côte-Saint-André qui sera de 10h à 19h. Et le samedi 19 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, un atelier sera animé « Comment restaurer des décors peints de demeures historiques » par Dominique Jouve, restauratrice. Elle présentera ce jour-là les interventions qui ont eu lieu cette année au musée. Et elle échangera avec beaucoup de plaisir sur ses savoir-faire et la richesse de son métier. Le dimanche 20 septembre, ça sera à 15h30 une visite guidée gratuite du musée. Et à 17h, finir en musique avec un concert gratuit de Halsey Trio.
Et nous n'oublions pas non plus les belles journées de Bourgoin-Jallieu le 11 et 12 septembre. Les nuits berjaliennes seront rock avec la première édition du festival. Grande fête de la musique de 2 jours et 2 nuits au cœur du Parc des Lilates à Bourgoin-Jallieu. Nous vous avons informé de ce que nous connaissions sur l'agenda des manifestations dans la région. Maintenant, pour plus d'informations, vous pouvez vous diriger vers les offices du tourisme, les associations, etc. pour plus d'informations dans tout genre. Au revoir à tous et venez nombreux au prochain atelier le lundi matin à la Cité de la CAF à 9h. Le rendez-vous est pris, n'est-ce pas? Et à bientôt!
Au revoir.
Au revoir.